du vent, le magazine de l'environnement.
Si vous nous rejoignez, nous sommes avec la journaliste canadienne Naomi Klein aujourd'hui à l'occasion de la traduction en français de son dernier livre « Tout peut changer, capitalisme et changement climatique » aux éditions Actes Sud. Naomi Klein, vous écrivez que depuis l'échec de la conférence de Copenhague en 2009, vous avez compris que personne ne viendrait nous sauver et qu'il fallait donc miser sur les mouvements citoyens finalement.
Well, Copenhagen was definitely a turning point. You know,
la conférence de Copenhague, oui, a représenté un tournant. Je parle dans mon livre de la dernière soirée de ce sommet que j'ai passé avec un jeune militant qui pleurait sur mon épaule, en fait. Il était tellement sûr que Obama allait nous sauver, allait finalement sauver cette conférence. Il croyait en cette transition politique de Bush à Obama. Bush, on le savait, nier la réalité du changement climatique. Alors les gens pensaient, les militants notamment, que comme Obama comprend, lui, qu'il y a un changement climatique, il doit agir, il doit faire quelque chose. Et la position de la société civile et des mouvements sociaux à Copenhague, eh bien, était presque... ils les imploraient, les dirigeants, notamment Obama, de faire quelque chose. Ils attendaient tout de lui. Où en sommes-nous maintenant? Eh bien, je crois qu'on a fini par comprendre que le leadership doit venir de la base, des citoyens. Bien sûr, les dirigeants politiques sont importants, ils ont leur rôle à jouer, mais on ne peut pas les supplier, les implorer. Il faut exercer des pressions sur eux, et puis il faut formuler la vision de la forme que pourrait prendre ce changement. Et on trouve des exemples positifs qui nous montrent que ça peut marcher. Regardons l'Allemagne. L'Allemagne est en passe de réussir une transition énergétique assez remarquable. Dès aujourd'hui, dès maintenant, 30% de l'énergie allemande vient des énergies renouvelables. Je suis sûre que dans votre émission, vous avez d'ailleurs parlé de tout cela. Et on n'en parle pas comme une victoire des mouvements sociaux. Pourtant, ça l'est parce que l'Allemagne a un mouvement anti-nucléaire très fort. Et lorsqu'il y a eu la catastrophe de Fukushima, le mouvement s'est emparé de cette crise du nucléaire pour exiger une accélération de la transition énergétique en Allemagne. Il y a donc eu un partenariat entre les mouvements sociaux qui exerçaient une forte pression de la base, y compris en recourant à la désobéissance civile à laquelle ils ont toujours fait appel, et puis d'un autre côté une classe politique mais qui a répondu, qui a écouté, qui a entendu. Et je crois que c'est ce type de dynamique qu'il nous faut pour faire face à cette crise du climat. Il faut que la crise soit la crise des hommes et des femmes de cette planète et qu'on comprenne l'urgence qu'il y a à agir, mais il faut aussi peaufiner cette vision de la transition énergétique que nous voulons.
Oui, parce que vous écrivez aussi, après avoir démontré dans votre livre comment fonctionne la machine des climato-sceptiques aux États-Unis, vous dites finalement que d'une certaine manière, nous sommes tous un peu climato-sceptiques, parce que le climat, ça fait peur, ça génère de l'angoisse, et face à l'angoisse, en général, on se replie.
It's true, and I start the book.
C'est vrai.
Kind of listing all the ways in which we look away.
Et au début de mon livre, j'ai essayé de dresser la liste de toutes les manières dont on détourne les yeux, en effet, ou dont on fait l'autruche. Parce que on peut se dire, oh si, au moins tout le monde savait, avait conscience du problème, on agirait. Mais je crois que malheureusement, c'est plus compliqué que cela. C'est là, dans notre vision périphérique, le changement climatique. Et dès qu'on l'aperçoit, on détourne les yeux, en effet. Alors, bon, je ne vais pas reparler de la fonte des glaces. Je préférerais vous parler de petits chats adorables qui font copain-copain avec des chiens tout aussi adorables.
Because obviously, when there's nothing more terrifying than knowing that your home has become unsafe.
Car véritablement, il n'y a rien de plus terrifiant que de savoir que l'endroit où on habite n'est plus sûr pour nous, peut-être dangereux.
I think that's true of our individual homes, but it's also
c'est vrai pour nos maisons, nos foyers individuels, mais aussi pour notre foyer collectif qu'est la Terre. Pourtant, je crois qu'on est capable de faire face les yeux ouverts à la crise, mais seulement si on perçoit qu'on commence à réagir. La combinaison raison tout à fait terrifiante, c'est d'avoir cette information sur la gravité de la crise du climat et puis en même temps la conscience du fait qu'on continue de creuser la même route mortifère. C'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Enfin, ça rend fou. D'un côté, on a conscience de la réalité de la crise et d'un autre côté, on voit qu'on continue de forer, d'extraire à tout va des entrailles de la Terre. Voilà, c'est une contradiction terrible.
Alors cela dit, il y a quand même une mobilisation citoyenne très très forte, de plus en plus forte. Les manifestations en septembre dernier, notamment avec plus de 400 000 personnes à New York, ont donné de l'espoir. Cette mobilisation grandissante de la société civile, c'est vrai qu'elle est importante, mais pour changer d'échelle, il faudrait qu'il y ait une espèce de réveil massif, en fait, que tout le monde réussisse à ouvrir les yeux sur le monde dans lequel on vit. Alors j'aimerais vous faire écouter les propos de l'économiste Bernard Maris, qui a malheureusement été assassiné le 7 janvier dernier dans les locaux de Charlie Hebdo.
Aujourd'hui, les marchés se sont plutôt bien comportés. Indice qui sommes nous moins 0,05, indice où allons-nous 1,5, indice d'où venons-nous 4,0.
La relation marchande a tendance à se substituer à toute autre relation et à absorber tout autre type de relation. La relation marchande ne supporte pas qu'il y ait des relations qui ne soient pas marchandes. Des relations d'affection, d'amour, d'amitié.
Jouissance des biens matériels 0,8.
Toutes ces relations sont des relations qui sont insupportables pour la relation marchande, qui est une fausse relation d'égalité qui passe par l'argent. Là, il y a une belle phrase de Simmel qui dit, c'est que l'argent, c'est ce qui permet de ne pas regarder les autres dans les yeux. Or justement, l'humanité est faite pour regarder les autres dans les yeux. Et profondément, nous sommes humains, nous, des animaux qui regardons les autres dans les yeux. Et ça, le marché ne supporte pas, parce qu'il faut qu'il y ait dans la relation, qui est une relation, on va dire, d'affection, eh bien, il faudrait la couper par le mur de l'argent, par l'intermédiaire de l'argent. Tout le progrès technique va vers l'hyper-narcissisme et l'hyper-individualisation. Et la solitude absolue que provoque ce type de société, qui est une société d'une dureté impitoyable. Le marché est une société extrêmement dure, qui offre beaucoup de jouets aux jeunes gens. On les voit tous pianoter dans le métro, sur leur smartphone, bon, dans leur isolement, dans leur bulle, en train avec des jouets. C'est vraiment un stade infantile, hein, le capitalisme. C'est un stade extrêmement infantile. Ce n'est pas une société mature, puisqu'elle surfe sur le besoin infini et qui est renouvelé de façon permanente. Donc c'est vrai que cette marchandisation perpétuelle de tout ce qui peut exister, le fait que, bon, on offre désormais à des enfants des smartphones de plus en plus tôt, l'argent de poche, toutes ces choses-là, qui fait qu'on détruit du lien social, c'est quelque chose de très pernicieux, porteur d'une grande violence et assez suicidaire. Je pense que cette société qui détruit systématiquement l'altruisme, la coopération, la fraternité, cette société est extrêmement suicidaire.
Ouais.
Bernard Maris faisait partie du mouvement des économistes atterrés comme Jean-Marie Haribec, nous avons reçu il y a peu de temps dans C'est pas du vent.
Non seulement le marché, le capitalisme ne supporte pas le lien social, mais il ne supporte même pas non plus les relations monétaires qui sont non marchandes. Par exemple, l'éducation publique, par exemple, la recherche publique, par exemple, la santé publique, dont on voit bien que la stratégie est de les grignoter de plus en plus. Parce que même ce n'est pas supporté, alors que les forces économiques marchandes profitent de l'éducation, que tout le monde soit à peu près en bonne santé, et de la culture, etc., etc. Et donc, il s'agit d'élargir constamment la sphère où le capital va pouvoir aller se valoriser. Donc on privatise la protection sociale, on privatise la distribution de l'eau, on privatise les services culturels et tout l'accès à la santé, etc., etc. Et donc les pistes que nous ouvrons visent justement à borner cette marche en avant pour redonner une légitimité à tout ce qui est du ressort à la fois du lien social et en même temps ce qui ressort de l'activité proprement économique, mais dans laquelle le capital n'est pas entré pour produire de la valeur pour l'actionnaire, puisque vous savez que c'était le mot d'ordre de ces 15 ou 20 ou 30 dernières années. Voilà. Et donc, il faut mettre en place vous demandiez, est-ce qu'il y a une autre économie possible? Oui, tout à fait possible, à condition de reconvertir massivement l'industrie, l'agriculture, les services, et de les faire obéir à un certain nombre de critères d'ordre social et d'ordre écologique simultanément.
Naomi Klein, comment est-ce que vous réagissez à ces propos d'une part de Bernard Maris et par ailleurs de Jean-Marie Arribet?
I mean, I think those are incredibly lucid and
ce sont
moving,
des propos incroyablement lucides et fort émouvants aussi.
And especially the discussion about not looking each other in the eye, and I think
notamment
that climate
quand tu dis que voilà, on est empêché de se regarder dans les yeux.
The more we fail to act, the harder it becomes.
Et avec le changement climatique, c'est vrai que plus on échoue à le contrer, plus ça devient difficile de regarder l'autre dans les yeux. Il y a beaucoup de brutalité dans notre échec à répondre à cette crise collective. Et c'est palpable, on le sent. Ces sommets des Nations Unies deviennent de plus en plus pénibles, douloureux, parce qu'on entend les voix d'États très impactés négativement, des petites îles isolées ou les négociateurs des Philippines qui essayent de plaider leur cause.
A Philippine negotiator,
Yeb Sanao, un négociateur philippin qui se trouvait dans la région qui a été frappée si durement par le typhon Haiyan qui s'est déroulé pendant ce sommet des Nations Unies. Eh bien, ce militant n'a cessé de pleurer pendant toute la réunion. Et pourtant, on n'a pas réussi à mobiliser une solidarité à la hauteur de cette crise.
And you know, it's one of the things that I find most disturbing about this crisis is
qui
that
me perturbe le plus à propos de cette crise. C'est-à-dire que la logique du marché est entrée si profondément dans les mentalités que beaucoup d'entre nous ne croyons même plus qu'on puisse se sauver nous-mêmes. Et on s'interroge même, est-ce que ça vaut la peine qu'on se sauve? Est-ce qu'on le mérite?
What young people are watching when they go to the Cineplex, you know,
et on regarde les films que vont voir les jeunes au multiplex. C'est des visions apocalyptiques de l'avenir, des choses comme Hunger Games, les jeux de la faim. Il y a les 1% des 1% des nantis qui vivent bien, entourés, enfin, qui baignent dans une mer d'apocalypse. Et on a l'impression, on imagine tellement ces scènes d'apocalypse que c'est comme si c'était déjà là.
And so I think the great challenge of this moment is imagining another kind of future because in
alors
fact,
le grand défi c'est d'arriver à imaginer un avenir différent. Car en fait on a encore le temps de réagir à cette crise climatique mais il faut modifier radicalement nos valeurs. Il faut une régénération, une renaissance
of the very idea of collective action of
de toutes les idées qui tournent autour de la valeur de l'action collective, un espace collectif pour la solidarité.
And ironically, many of the ways in which we've responded to climate change so far,
ironiquement, jusqu'à présent, la manière dont on a essayé de réagir ne fait que renforcer l'idée selon laquelle nous ne sommes que des individus consommateurs, que notre vie se résume à ce qu'on achète. Or, on est bien plus que ce qu'on achète, et on peut agir ensemble. Et on voit naître ce type de mouvement, notamment chez les jeunes. Ça me réjouit, ça fait chaud au cœur de voir la nouvelle génération de militants pour le climat.
Et on peut agir aussi au niveau individuel, il y a de nombreuses solutions, on en parle concrètement après une petite pause musicale.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
écoutez C'est pas du vent sur RFI en compagnie de la journaliste canadienne Naomi Klein à l'occasion de la traduction de son dernier livre en français « Tout peut changer, capitalisme et changement climatique » publié aux éditions Actes Sud. Alors nous avons vu que les sphères politiques et économiques, Naomi Klein avait du mal à évoluer, mais nous, comme simples citoyens, que pouvons-nous faire? Eh bien une solution parmi d'autres à laquelle nous ne pensons pas souvent est de se réapproprier notre argent, comme le démontre la journaliste Jocelyne Lemaire d'Arnaud dans son documentaire « Moi, la finance et le développement durable ».
Le système dans lequel on vit est un système schizophrénique, de toute façon, on le sait. Et le système bancaire et le système financier, il organise toute cette schizophrénie depuis le départ. Et en fait, c'est vrai que c'est un peu étonnant qu'on peut aujourd'hui, par exemple, militer dans plein d'associations, d'organismes. On peut prendre une carte bleue, par exemple, dans certaines banques pour être solidaire ou pour... je ne vais pas citer les banques en question, mais les gens les reconnaîtront. On peut, à une époque, on pouvait prendre une carte bleue qui vous permettait de soutenir un organisme qui s'appelle Handicap International, qui fait un travail absolument merveilleux, c'est une ONG. Mais de l'autre côté, cette même banque, donc vous aviez 0,0001% par exemple de ce que vous retiriez qui va à cette ONG. Et de l'autre côté, la même banque les finance, ces bombes. Pour arrêter de nous faire prendre des vessies pour les lanternes et que on arrête de parler de développement durable. Vous pouvez calculer quand vous fermez vos fenêtres, quand vous allumez votre chauffage, si vous roulez en vélo, vous pouvez calculer toutes ces choses-là. Mais alors, allez demander à votre banquier ce qu'il fait avec votre argent. Parce que pendant que vous faites des économies, par exemple, vous utilisez moins d'eau, moins d'énergie pour chauffer chez vous, que vous faites du vélo, etc. Ou que vous faites du vélo chez vous pour avoir chaud et pas chauffer. Enfin bon, il y a plein d'options. Pendant ce temps-là, votre banque, elle utilise l'argent qui est sur votre compte pour faire des choses qui polluent partout dans le monde et qui fait des rejets de CO2 terrifiants.
C'est vrai, Naomi Klein, on ne pense pas toujours au pouvoir que représente chaque mois notre salaire qui arrive sur un compte en banque, pour ceux qui ont un compte en banque.
Yeah, absolutely, and there's a growing movement which is called the fossil fuel divestment.
Et il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement pour le désinvestissement des combustibles fossiles. C'est un mouvement très jeune, mais qui a bien pris sur des centaines de campus universitaires et auprès des municipalités. La ville de Paris, par exemple, s'est prononcée en faveur d'un désinvestissement de son portefeuille d'actions dans les entreprises pétrolières ou gazières. Il y a des étudiants qui demandent à leurs universités de désinvestir de la sorte ou à des banques. Et ce n'est pas, cela ne ressort pas du pouvoir d'un banquier individuel, mais il faut regarder aussi où on investit dans les fonds de pension, etc. Les syndicats peuvent s'emparer de cet espace également pour essayer de l'utiliser comme levier. Il faut voir là où on a le plus de pouvoir. Bien sûr, cela appelle des réponses différentes pour nous tous, pour chacun d'entre nous. On a tous notre petite sphère de pouvoir. Les journalistes ont la leur, mais c'est vrai qu'au niveau des citoyens, on peut faire beaucoup plus que de recycler ou trier, on peut entraîner un changement systémique. Oui. Et ce mouvement qui vise à désinvestir de ces carburants fossiles nous éclaire car il nous montre que les bénéfices des entreprises qui travaillent sur les énergies fossiles ne sont plus légitimes. La recherche nous a éclairé. Le Carbon Tracker Institute, par exemple, et beaucoup d'articles scientifiques, notamment publiés dans la revue Nature, nous montrent qu'il y a 5 fois plus de carbone dans les réserves déjà connues que ce qui peut être compatible avec cette augmentation de 2 degrés de la température de la Terre. Donc, lorsqu'on avance cet argument, eh bien, je crois que ça éclaire le citoyen ordinaire sur cette réalité. Et si les profits sont si illégitimes que tout le monde se retire, il s'ensuit que nos gouvernements devraient eux aussi avoir droit à ces bénéfices pour pouvoir payer le retrait, l'arrêt des combustibles fossiles et avoir l'argent qu'il nous faut pour préparer cette transition. En Afrique, par exemple, où les gouvernements le plus souvent n'ont pas les sommes nécessaires pour mettre au point des systèmes qui tiennent la route pour les alertes par rapport aux crues, aux inondations, tout ça. Pour eux, dans ces pays-là, c'est encore plus critique.
Alors, il y a quand même des signes de changement. En septembre dernier, il y a un groupe de milliardaires et de fondations philanthropiques, dont la fondation des frères Rockefeller, qui ont quand même amassé une fortune colossale dans le pétrole, qui ont annoncé qu'ils réorienteront 50 milliards de dollars de placements pétroliers vers d'autres domaines, notamment dans les énergies renouvelables. Alors, vous êtes à l'origine, avec d'autres, hein, de ce mouvement de désinvestissement et de diversification des placements. Et alors, aujourd'hui, il y a quand même 650 personnes, 180 institutions, une cinquantaine de fondations qui ont adhéré. On sent que le mouvement est en train de prendre. Alors, est-ce que, par exemple, les Rockefeller se désinvestissent par intérêt en se disant de toute façon le prix du pétrole va monter, il y a de moins en moins de ressources, faut qu'on change le braquet, oui. Ou est-ce que c'est plus par conscientisation face aux défis du climat? Mais en tout cas, les faits sont là.
I think that the main value is not that this is going to bankrupt the fossil fuel companies because, you know, one foundation.
L'intérêt, bon, c'est pas qu'on arrive à mettre en faillite les grandes entreprises minières, extractives, etc. Mais au moins, ça envoie un signal au marché. Les analystes du marché commencent à en parler de plus en plus et pointent cette contradiction terrible entre les objectifs fixés par les gouvernements, par les États dans les sommets des Nations Unies et ce modèle économique qui ne fonctionne plus. Et si on commence à prendre tout cela sérieusement, il y a des trillions de dollars d'investissement qui tout à coup n'ont plus aucune valeur puisqu'ils ne vont pas pouvoir extraire ce carbone sur lequel ils comptent. Donc ça crée un climat d'incertitude et cela est aggravé par effectivement la chute brutale du cours du pétrole qui est passé de $100 le baril à $50 le baril en 6 mois. Bien sûr, ce n'est pas lié à tout ce mouvement de diversification des placements ou de désinvestissement, mais en tout cas, autour de ces actions dans les compagnies pétrolières, ça sent de plus en plus mauvais, et ça, c'est positif.
En janvier dernier, la couverture de The Economist, un hebdomadaire britannique, donc de référence quand même sur les questions économiques internationales, a montré une silhouette qui bondissait d'une pyramide de barils et de pétrole et le titre nous disait « Saisissez la balle au bon ». L'éditorial qui suit précisait qu'il s'agissait là d'une opportunité unique pour notre génération, hein, pour changer justement notre système énergétique de manière radicale et pour en finir avec les habitudes de consommation. C'est ce que vous dites aussi dans votre livre, finalement. Tout peut changer malgré le tableau un peu noir que l'on a fait dans cette émission. On sent bien que là, on a une chance à saisir. Il faut pas la rater.
I think this is an extraordinary moment because
oui, on vit un moment tout à fait particulier, assez extraordinaire, en raison de la combinaison de la chute du prix du pétrole qui rend possible le fait d'envisager la mise en place d'une forte taxe sur le carbone, parce que quand les prix sont bas, c'est plus facile d'appliquer des taxes sur le carbone, et aussi grâce à la chute du prix des énergies renouvelables qui deviennent plus compétitives par rapport aux énergies fossiles. Donc on a un petit peu plus de marge de manœuvre. Quand le prix du pétrole est bas, il est moins attirant financièrement d'effectuer des forages dans l'Arctique ou de se livrer à une extraction massive qui détruit la terre comme dans la province de l'Alberta. Ça devient un peu trop cher. Ainsi, nous avons un petit répit. Ça nous donne une fenêtre. Il faut en faire le meilleur usage possible.
Si on prend un petit peu de recul et qu'on combine la crise écologique qui est quand même multiple, hein, c'est-à-dire la fin des ressources naturelles, la fin des énergies fossiles, la crise économique, les difficultés sociales, la violence qui monte quand même dans de nombreux endroits du monde, on a un peu le sentiment d'être à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose, et vous le dites un peu dans votre livre, hein, on est sur un enjeu civilisationnel en fait.
Well, I mean, the truth is that my last book, The Shock Doctrine, is
mon livre précédent, La stratégie du choc,
moments of crisis,
décrivait comment les moments de crise font surgir le pire chez l'homme. Et on ne cesse de le voir. Lorsqu'un grand choc se produit, eh bien, c'est l'occasion idéale pour que les élites privatisent la sphère publique, s'accaparent des terres, viole les libertés civiles. Lorsque j'écrivais la stratégie du choc, au début, je traitais de la guerre, l'invasion de l'Irak, et après, j'ai étudié les chocs économiques. Mais lors de l'écriture de ce livre, j'ai vu que tout cela se produisait immédiatement après des catastrophes naturelles, comme le tsunami ou l'ouragan Katrina. On est vraiment à la croisée des chemins. Si on continue, si on poursuit sur la route qu'on a empruntée, c'est pas juste que le climat va se réchauffer, mais tout va devenir plus violent, plus brutal. Et c'est ce futur qui nous est décrit dans la littérature de type apocalyptique ou les jeux dont on parlait. Mais c'est également un catalyseur et une formidable occasion pour nous de nous emparer du gouvernail de l'histoire et de changer de cap enfin, et tout en essayant de résoudre des problèmes multiples en même temps. C'est vrai, la crise des inégalités, la crise économique, la crise de l'emploi. Et bien évidemment, la crise du climat.
Merci beaucoup Naomi Klein d'être passée dans ces pas du vent. Merci Evder d'avoir assuré la traduction. Je signale au passage que un site web est associé à votre livre qui présente de nombreuses initiatives inspirantes. On vous trouverait évidemment les coordonnées de ce site sur la page internet de l'émission www.rfi.fr. Le titre de votre livre, Tout peut changer, capitalisme et changement climatique, c'est publié chez Actes Sud. Pour réagir à cette émission, c'est pas du vent @rfi.fr ou sur Facebook et Twitter, hashtag c'est pas du vent. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.